Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc le message que j'aimerais apporter aujourd'hui, je l'ai intitulé « Dieu t'a créé avec un cerveau, utilise-le ». Dans une expression populaire, on dit, des fois vous l'avez peut-être entendu de la part de vos professeurs à l'école, « Faites travailler vos méninges ». Nous ne sommes pas faits pour laisser les autres réfléchir à notre place, pour nos choix de vie et les décisions à prendre. Donc on peut, certes, on peut prendre des conseils chez d'autres personnes. On peut utiliser l'expérience des autres. On peut lire des livres. Et surtout, le livre par excellence, la Bible. Il est étonnant d'ailleurs que des gens peuvent lire toutes sortes de choses, mais si on dit, et la Bible, vous la lisez, ah non, non. Mais on peut lire n'importe quoi, mais il y a comme une espèce de chose qui fait que les gens se raidissent et se crispent quand il s'agit de s'approcher de la parole de Dieu. Pour nous, c'est aussi la preuve qu'il y a quelque chose de vivant là-dedans, il y a quelque chose de spirituel, il y a quelque chose d'important. Donc on peut recevoir des conseils de toutes sortes. Dans la Bible, on reçoit des conseils au travers de personnes qui ont vécu une vie comme nous. La Bible n'est pas un livre difficile. On a eu l'occasion d'être dans une église où le pasteur commence à dire « Voilà, on va aborder la lecture d'un livre de la Bible qui est compliqué ». La Bible n'est pas compliquée en tant que telle. C'est nous, dans notre cerveau, on rend les choses compliquées. Mais en réalité, beaucoup de choses de la Bible sont des choses très simples, du vécu de personnes qui nous ont précédés il y a des milliers d'années. Mais leur quotidien est le même que le nôtre. C'est pas parce que nous avons une évolution technologique que les relations humaines ont changé. Donc, on a des choix à faire et il y a aussi des conséquences à ces choix. Et c'est ce que nous voyons dans la Bible. Alors, j'aimerais partager avec vous 10 bonnes questions à se poser pour que cette année soit pour nous différente et meilleure. Donc 10 questions qu'on peut se poser. Et comme texte de base, je prends dans l'Ancien Testament le prophète Agée au chapitre 1 et au verset 5. Dans ma version, voilà ce qu'il est dit. « Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. » D'accord ? Réfléchissez, ça veut dire, c'est ce que j'ai dit en titre, utilisez votre cerveau, réfléchissez à votre conduite. Conduite, ça veut dire comment vous allez vous comporter, mais aussi la conduite vers où vous allez vous diriger, quelles sont les décisions que vous allez prendre. C'était dans une circonstance où le peuple de Dieu est devenu négligent dans sa relation avec lui. Le Seigneur les a repris par les paroles de ce prophète, il s'appelait Agée. Réfléchissez à votre conduite. Une autre version dit « Considérez vos voies ». Regardez quelles sont vos voies. C'est dans cette version. Considérez attentivement vos voies. Dans la page numéro 935, les Bibles de Genève 79. Donc, voilà une réflexion. Une réflexion qui était de voir qu'est-ce qui nous arrive à la lumière de ce que Dieu nous dit. Souvent, il m'arrive d'entendre des choses comme des personnes qui commentent l'actualité ou quelque chose qui se passe, et beaucoup de gens sont empreints du fatalisme. On n'y peut rien, on ne sait pas comment ça s'est fait, mais voilà, c'est arrivé, on ne peut rien y changer. Et dans ce passage Agée, qui est un peu plus grand que juste le verset 1, à un moment, il nous est dit « Pourquoi ?» Est-ce que vous vous demandez pourquoi ? Ça aussi, c'est une question que les gens se posent des fois. Ils disent, mais pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi? Ici, il y a des réponses. On va le voir plus loin. Donc, même les gens qui sont fidèles, ils ont besoin de temps en temps de faire une pause et de réfléchir à la direction qu'ils veulent prendre pour leur vie. Il est facile de se laisser emporter d'une semaine à l'autre. On est tellement occupé à plein de choses. Et puis, on ne s'arrête pas et on ne regarde pas où nous allons, ou plutôt où nous devrions aller. Certains sont en train de foncer dans le mur et ils croient que la meilleure solution pour s'en sortir, c'est d'accélérer. C'est un langage imagé, mais c'est la réalité de ce qui se passe pour certaines personnes. Ils pensent qu'en allant plus vite, on va pouvoir le forcer, mais on rentre juste plus vite dans le mur. Donc voilà certaines questions que vous pouvez vous poser, et je précise dans une attitude de prière. Il ne s'agit pas juste comme ça de se creuser la tête, mais de dire aussi, Dieu, si tu as des choses à me dire, des indications à me donner, des réponses à me donner, alors parle-moi, réponds-moi. Donc, attitude de prière dans un moment de la présence de Dieu. Jésus a promis, et pour nous, Jésus, il est parfaitement Dieu, il nous a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est les dernières paroles de Jésus dans Matthieu 28. Avec ça, on pourrait dire, mais alors Dieu est toujours avec moi. Mais nous, nous comprenons que la présence de Dieu, c'est un moment particulier où nous sommes conscients de cette présence. On y pense qu'il est là. On n'agit pas comme s'il n'était pas là. On n'agit pas comme s'il était lointain. On est conscient qu'il est là. C'est pour ça qu'on dit des fois, on sent la présence de Dieu dans un culte. Pourquoi ? Parce qu'on met les autres choses de côté et on prend du temps pour le louer, pour l'adorer, pour le prier, pour le remercier, pour entendre de lui, et tout à coup, il devient plus réel pour nous. Il est tout autant présent avant et après, mais il est plus réel pour nous. Et donc, dans ces questions, je vous encourage à aussi expérimenter cette réalité de la présence de Dieu. Alors, c'est des questions un peu en vrac, et chacun peut piocher un peu dedans. Je ne veux pas faire une liste des 10 choses ou des 15 choses ou des 20 choses qu'il faut que vous fassiez, mais prenez le temps de voir est-ce que Dieu veut vous toucher par une question en particulier. Alors, la première question que j'aimerais qu'on se pose à chacun, quelle est la chose, pas les 36 choses, la chose à faire pour vivre plus intensément ma relation avec Dieu, qu'il cesse d'être lointain. Vous m'en avez noté ça ? Quelle est la chose que je peux faire pour vivre plus intensément ma relation avec Dieu ? Si vous dites, je ne sais rien, je ne me suis pas posé la question. Ben oui, justement, c'est pour ça qu'on est ensemble, pour dire, utilise ton cerveau, réfléchis, vois quelles peuvent être les choses que tu peux faire et surtout la chose que tu pourrais changer pour que tu puisses vivre cette relation plus intensément. Alors, vous me dites peut-être, mais ça y est, il va nous apporter la réponse. Je ne voudrais quand même pas que je fasse les questions et les réponses en même temps. Donc, je ne vais pas répondre à chaque question qu'on va se poser parce que ce sera à vous de trouver avec Dieu la chose. Parce que celle qui est vraie pour moi ne sera peut-être pas vraie pour vous. En tout cas, ce qu'on a dit, faire une pause de temps en temps dans votre vie est certainement une indication. Faire une pause. Nous ne sommes pas légalistes ici. On ne veut pas retourner sous la loi, ni nous asservir par plein de principes religieux. Mais lorsque Jésus a dit « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat », ça voulait dire que dans un monde antique, avoir une loi qui donne à chaque personne un jour de repos, tous les 7 jours, c'était révolutionnaire. Et ça a même imprégné notre monde entier qui fait qu'on fonctionne sur des semaines de 7 jours et qu'on a des moments que les gens attendent. Maintenant, bon, la journée s'est transformée en week-end qui est plus ou moins long pour les gens, mais le principe du sabbat, c'est un moment où vous arrêtez vos activités habituelles et vous prenez un temps pour le repos et pour entendre de Dieu. C'est pour ça que prendre un week-end et le remplir de plein de choses et tout de suite repartir dans la semaine, au bout d'un moment, vous êtes essoufflé. Peut-être physiquement, mentalement, mais spirituellement aussi. Vous ne vous êtes pas rechargé vos batteries. Donc, trouvez cette chose à faire. Cette pause peut être pendant la journée. Si le matin, parce que vous êtes fatigué, vous partez dans votre journée sans la préparer, le midi, vous n'avez pas le temps de faire une pause, et que le soir, vous êtes trop fatigué pour avoir du temps pour Dieu, ben vous êtes dans un engrenage où au bout d'un moment, votre vie spirituelle, elle va baisser, et elle ne sera finalement, elle n'aura très peu d'impact. Et on ne verra plus la différence entre celui qui croit et celui qui ne croit pas. Donc, trouvez-vous cette chose à faire. Deuxième question qu'on peut se poser. Quelle est la chose humainement la plus impossible pour vous que vous aimeriez demander à Dieu. Donc voilà, cette année, vous avez un défi, vous vous retrouvez dans une certaine situation, il y a quelque chose que vous avez beau y réfléchir, vous ne trouvez aucune solution. Ou vous aimeriez voir se réaliser un projet et vous ne voyez pas du tout comment ce projet pourrait-il aboutir. C'est ce genre de situation tout à fait impossible que je vous lance le défi de demander à Dieu de le faire, d'expérimenter un miracle. Il s'agit là encore pas de faire la liste des 36 choses que vous souhaitez, que vous désirez, mais vraiment vous dites, il y a un projet qui me tient à cœur. Ça doit être quelque chose d'important. Et vous dites là vraiment, il n'y a pas de possibilité. Ça peut être pour quelqu'un, le diagnostic des médecins est clair, incurable. C'est vraiment impossible. Un projet de business, vraiment impossible. Parce que, vous savez, après, quand les choses s'arrangent, les gens trouvent toujours des explications. Ah oui, ben, c'est normal, ça s'est arrangé. Mais il y a un moment où ça semble vraiment impossible. Jésus a cet entretien avec les disciples quand il leur explique qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ils sont stupéfaits. Il dit, mais ben, d'habitude, une personne qui est riche, ça veut dire qu'elle est bénie de Dieu. Donc, approuvée de Dieu. Pour eux, être riche, c'est un signe de bénédiction. Et quand Jésus dit non, c'est pas de ça que ça dépend d'entrer dans le royaume de Dieu. Ils sont stupéfaits. Ça correspondait pas à leur schéma de pensée. Il dit parce qu'aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, c'est possible. Tout est possible à Dieu. Donc voilà, un défi, question de demander quelque chose qui est impossible. Troisième question à se poser. Quelle est la chose unique ou principale qui pourrait améliorer la qualité de votre vie de famille? Votre vie de famille, est-ce qu'elle est? Je ne sais pas si elle est bonne, mauvaise. Une chose, pensez à une chose. Quelle est la chose principale que je devrais changer ou que j'aimerais voir se réaliser pour que la qualité de la vie familiale change? Donc la famille, ça peut prendre plusieurs formes. Hein. Ça peut être juste le couple, ça peut être la famille au sens foyer ou la famille dans le sens en dehors du foyer. Des fois, ça pourrait être une mauvaise relation avec quelqu'un de votre famille qui est peut-être éloigné, mais vous ne voudriez quand même pas que cette chose ne se résolve jamais. Vous aimeriez que la paix soit retrouvée, qu'il y ait de nouveau l'harmonie ou quelque chose. Donc, pensez, qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'il y ait une amélioration de la qualité? Ou alors, dans votre foyer, de voir, il y a quelque chose qui fait qu'on se retrouve toujours dans la même situation et ça empêche la qualité de la vie de famille ou l'harmonie dans la vie de famille. Autre question, dans quelle discipline spirituelle est-ce que j'aimerais faire du progrès cette année? Une discipline spirituelle. Là encore, c'est très important qu'on ne fasse pas une espèce de package, un paquet global où on met tout dedans. Il faut que je lise plus ma Bible, que je prie plus, que je fasse ceci, que je fasse cela. C'est pas la liste que je vous demande de dresser. C'est quelle est la discipline spirituelle dans laquelle j'aimerais progresser. Vous savez que le jeûne a sa place dans la vie des chrétiens. Peut-être j'ai jamais réussi à jeûner, ou je ne vois pas quel bienfait ça peut m'apporter. J'aimerais grandir dans ce domaine. Je vous donne quand même quelques pistes, même si je ne vous donne pas les réponses. Ou peut-être que je sais qu'il y a des dons spirituels, il y a des manifestations de l'Esprit de Dieu, mais j'y aspire pas assez, et finalement ils ne se manifestent pas dans ma vie. Peut-être c'est ça, discipline spirituelle. Peut-être c'est autre chose, c'est à vous de voir. Moi, je recommande, par exemple, une lecture de la Bible systématique, de faire de temps en temps, il faut arriver à faire le tour complet de la Bible, parce que toute la parole de Dieu est inspirée et utile pour nous. C'est 2 Timothée 3,16 qui nous dit cela. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Par contre, on est tous d'accord que c'est pas en lisant quotidiennement le livre des Lévitiques, avec tout le détail des lois, de sacrifices, d'animaux, que vous allez grandir spirituellement. Donc ce n'est pas la peine non plus par un devoir religieux que vous vous astreignez à lire avec assiduité tous les détails de la loi. Mais peut-être qu'il y a des choses qui vont plus spécialement vous aider. Donc on a des aides pour ça, pour la lecture de la Bible. Et même, vous savez, Dieu peut vous conduire à ouvrir tel ou tel passage plutôt qu'un autre. La méthode d'ouvrir au hasard et mettre le doigt dans la Bible est un peu hasardeuse. Je ne la conseille pas forcément, mais certains ont des fois été aidés par ça. Ça peut marcher, mais ce n'est pas une garantie. Donc, faire du progrès dans notre discipline spirituelle. Numéro 5. Quelle est la chose qui vous fait perdre le plus votre temps? Est-ce que vous pensez à quelque chose dans vos habitudes quotidiennes ou dans votre vie où vous avez l'impression vraiment ça me fait perdre du temps? On a tous la même période à la journée. Il y a 24 heures, il faut s'organiser pour l'utiliser, mais il y a des fois des choses qui nous font perdre notre temps. Est-ce que vous allez prendre une décision à ce sujet? Nous avons fait quelques réflexions. Encore une fois, je donne un exemple. On s'est dit que il y a certains objets dans notre maison qu'on déplace. Une fois ils sont ici, ça ne nous convient pas totalement, alors on les met là-bas. Au bout d'un moment, elles sont là-bas et on les remet ici. C'est juste pour donner une illustration. Et donc, on s'est dit que si on s'organisait mieux avec une armoire ou une étagère, elles pourraient recevoir leur place définitivement et ne plus être bougées d'un endroit à l'autre. Je donne des explications simples parce que des fois, on cherche des choses très, très compliquées, alors que au quotidien, gagner de précieuses minutes, à la fin de l'année, ça fait beaucoup de minutes. Peut-être c'est d'autres choses, ça peut être des distractions. On peut se laisser happer par quelque chose, un feuilleton, prend l'habitude de regarder, ou je donne n'importe quelle idée. Des fois, ça peut être bien, ça peut être distrayant, justement, et des fois, ça peut être quelque chose qui nous fait perdre notre temps. Alors, sachez faire la différence et pensez, non pas une fois de plus, je répète, pas 36 choses, mais une chose. Et qu'est-ce que je pourrais gagner comme temps en changeant mes habitudes par rapport à telle ou telle chose. Point numéro 6. Quelle nouvelle chose pourrions-nous faire cette année ou pourriez-vous faire pour fortifier votre église? L'église est dans un certain état, que ce soit l'église locale ou l'église en général. Alors on peut faire des bilans, on peut faire des constatations, mais à un moment donné, Dieu pourrait nous donner des idées de dire voilà, je t'appelle à faire telle ou telle chose précise. Cette chose sera une bénédiction pour l'Église. Ça va transformer l'Église. Peut-être c'est un ministère que personne n'a dans cette Église. Quelque chose qui manque. Ça peut être n'importe quoi. Là encore, je donne des pistes d'une manière globale. Ça peut être l'accueil, ça peut être un secrétariat d'Église, ça peut être la façon de communiquer, ça peut être la façon dont les cultes se déroulent, ça peut être plein de choses, mais l'important, c'est qu'est-ce que vous allez faire? Une chose nouvelle. Parce que si on ne fait que les choses anciennes, les choses vont demeurer comme elles sont. En faisant les mêmes choses, souvent, on a les mêmes résultats. Or, nous voulons des résultats différents. Donc, il faut faire quelque chose de nouveau ou de différent. Question numéro 7. Que des fois, on est tellement pris dans notre quotidien qu'on ne pense plus que quelque part autour de nous, il y a des personnes qui sont en perdition et en route pour l'enfer. C'est pas qu'ils aient mérité l'enfer, parce que nous, on l'a tous mérité. Mais nous, on a reçu la bonne nouvelle de Jésus qui dit, non pas vous allez en enfer, mais vous n'avez pas besoin d'y aller parce que j'ai accompli le sacrifice. Mais peut-être il y a quelqu'un qui a vraiment besoin que vous priez avec ferveur pour son salut. Pas juste une prière globale, Seigneur bénis tout le monde, mais maintenant quelqu'un. Vous pensez à quelqu'un, et quand moi je me suis posé cette question et j'ai pensé à quelqu'un de particulier, je dis oui, je voudrais prier pour qu'il y ait un changement chez cette personne. Parce que s'il n'y a pas de changement, je connais sa destination. Au travers des déclarations que cette personne a faites, de refuser Jésus, de refuser Dieu et d'avoir déclaré publiquement à plusieurs reprises qu'il ne voulait pas de Jésus, cette personne a par exemple besoin de salut. Donc pour vous aussi, est-ce que vous allez prier pour quelqu'un, pour son salut, de manière efficace, de manière fervente? Rappelez-vous, dans Jacques 5, il nous est dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc croyez que c'est possible. Jamais personne sur terre n'a été sauvé par Dieu, si s'il n'y a pas eu d'abord de l'intercession. Question numéro 8. Quelle est la chose la plus importante que vous allez faire différemment que l'année dernière? On a déjà parlé de certaines choses qu'il faudrait peut-être changer, mais maintenant, une chose que vous allez faire différemment. Toutes ces questions que je vous pose, vous ne devez pas vous poser les questions pendant des heures et des heures. Qu'est-ce que ça peut être? Ça doit jaillir en vous. Vous devez tout de suite dire, ah oui, c'est ça. Ça, c'est pas possible. Je peux plus continuer comme ça. Ça fait longtemps que je me dis, faudrait que je change, ceci, cela. La chose la plus importante, avec l'aide de Dieu, parce que des fois, il y a des choses que nous voulons changer, mais on n'arrive pas. Mais avec l'aide de Dieu, on peut compter sur la grâce de Dieu. Grâce, c'est la faveur de Dieu. Ce qu'on n'a pas mérité, mais il nous aide tout de même. Donc, par rapport à l'année dernière, qu'est-ce qu'on va faire différemment? Vous savez, c'est ça la vie avec Dieu. C'est du changement perpétuel. Hein. C'est pas quelque chose qui est figé. Lui, il est vivant aussi. Je crois même que c'est peut-être ça, une des raisons pour laquelle il nous est dit que Dieu ne voulait pas qu'on fasse des statues. Il voulait pas qu'on le représente. Faire une statue, ça veut dire que voilà, c'est figé, c'est comme ça et ça bouge plus. Il a dit, tu ne te feras pas de représentation de l'Éternel parce qu'il est en mouvement. En lui, nous avons la vie, le mouvement, l'être. Tout est en mouvement constamment et ça ne doit pas nous faire peur. Ensuite, quelque chose de très précis aussi. 9e question, quelle est la chose que vous pourriez faire pour améliorer votre vie de prière? Souvent, la seule chose que les gens pensent par rapport à la prière, c'est allonger la durée de la prière. On réduit un peu, on dit « je devrais prier plus », c'est-à-dire passer plus de temps à prier. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais il y avait un évangéliste du 19e siècle qui s'appelait Monsieur Moody, et à la fin de sa vie, alors qu'il avait eu, entre guillemets, du succès dans son ministère, il a dit « qu'est-ce que vous auriez fait différemment ?» Il a dit « j'aurais prié moins, mais j'aurais prié mieux. J'aurais d'abord davantage cherché la volonté de Dieu et ensuite prié selon ce qu'il m'a dit, plutôt que de prier. » Il y a des gens qui disent « Seigneur, fais ceci ou alors fais cela et au final, que ta volonté soit faite. » Non, il vaut mieux d'abord chercher « qu'est-ce que Dieu voudrait que je fasse ?» Et ensuite, prier selon ça, ça ne veut pas dire essayer de le convaincre de nous donner ce qu'il ne voudrait pas. Mais se ranger du côté de Dieu, déclarer ses promesses et lui rappeler ce que lui a déjà dit pour que cela puisse s'accomplir. Et ensuite, et dernière question que je vous laisse pour ce matin, c'est quelle est la chose que vous prévoyez de faire cette année qui va compter dans 10 ans ou pour l'éternité? Parce qu'on se rend bien compte que si vous faites le ménage, que vous passez la poussière, assez rapidement, ça va à nouveau être sale. Si vous prenez une douche, ça va être bien pour un temps, mais vous aurez besoin de vous laver. Et donc, il y a beaucoup de choses dans votre vie, vous vous rendez compte qu'elles n'ont pas un impact sur 10 ans ou sur l'éternité. Mais il y a des choses que nous pouvons faire cette année qui vont compter pour l'éternité. C'est ce que nous croyons du moins. Et donc, avec ce que je viens de vous partager, j'aimerais juste revenir dans notre prophète Agée que nous avons pris au début. Donc, il nous est dit bien précisément, voilà, à quel moment ce prophète a dit ces choses. Au verset 2, voilà ce qu'il prophétise. « Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agée. Est-ce pour le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit? » Ça nous donne une illustration de gens qui ne sont concernés que par eux-mêmes. Moi d'abord, ma maison, mon confort, etc. Dieu dit, pas seulement s'occuper de vous, mais aussi du temple de Dieu. Or, le temple de Dieu, c'est à plusieurs niveaux. Jésus a dit, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le reconstruirai. » Et donc, les gens disent, « Ce temple, il a fallu 46 ans pour le construire et toi, tu veux le rebâtir en 3 jours. » Il parlait, nous dit la Bible, de son propre corps. Donc, Jésus est le temple. En même temps, nous, le corps de Christ, nous sommes le temple. En même temps, chacun de nous, nous sommes le temple. Donc, il n'est pas temps de s'occuper de plein de choses matérielles et extérieures si le temple n'est pas en bon état. Donc, occupez-vous du temple de Dieu c'est-à-dire aussi de vous-même, esprit, âme et corps. Ensuite, occupez-vous de l'état de l'Église, les croyants qui sont ensemble. Si l'Église est en mauvais état, il faut travailler à la reconstruction du temple. Ensuite, le corps de Christ. On est déçu souvent de voir les choses qui se passent, les scandales et l'attitude de certains croyants. Donc, faisons ce qu'il faut pour que l'Église, corps de Christ, soit en meilleur état. Et rappelez-vous qu'il vient pour chercher une épouse qui sera sans tache ni ride, qui sera transformée de gloire en gloire. Et c'est dans ce contexte, au verset 5, c'est la suite. « Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. » Et ensuite, il dit « Vous semez beaucoup, vous récoltez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes habillé, vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. » Il dit « Quand ces choses arrivent, vous devez réfléchir, dire « Qu'est-ce qui m'arrive là ? C'est pas normal. » Vous voyez, dans chaque phrase, c'était des choses qui se contredisaient. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Il le répète. Montez sur la montagne. La montagne, c'est toujours le rendez-vous avec Dieu. C'est là-haut, sur la montagne. La vallée, c'est l'endroit de l'activité humaine, spirituellement. Apportez du bois, construisez le temple. J'en aurai de la joie et j'en serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, vous avez eu peu, vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. C'est-à-dire, on amasse, mais comme dit Jésus à un moment, certains amassent, mais ils ne sont pas riches pour Dieu. Et ensuite vient cette question, pourquoi ? Dieu dit, avec tout ça, pourquoi ? Alors, nous aussi, on se demande des fois, pourquoi ? Mais il y a une réponse. Pourquoi, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers ? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous empressez chacun pour votre maison. Donc il y a une opposition entre les intérêts de Dieu et les intérêts humains. Donc il y a une réponse. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée, la terre s'est produite. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. Ça veut dire qu'il y a des bénédictions qui ne sont pas reçues parce que nous n'avons pas, en tant qu'êtres humains, respecté l'ordre des choses. C'est pour ça que c'est tellement intéressant dans ces versions récentes, quand il est toujours dit « Voilà ce que je déclare, moi, le maître de l'univers. » Ça remet les choses en place. « Moi, le maître de l'univers. » Ce n'est pas juste n'importe qui fait cette déclaration. Et je termine par le verset 13. Voilà ce que déclare Agée, le messager de l'Éternel. Voilà ce qu'il dit au peuple. D'après l'ordre de l'Éternel, il leur donne une promesse. Je suis moi-même avec vous, dit l'Éternel. Toujours une promesse. C'est pas parce que je te fais des reproches que je ne suis pas de ton côté. Je te fais juste des reproches pour que tu puisses réfléchir, ajuster ton comportement et qu'on puisse mieux marcher ensemble. Voilà ce que dit Dieu. Pas juste je dis, écoute, ton comportement est nul, ça ne m'ira jamais. Ce n'est pas le langage de Dieu. Le langage de Dieu, c'est toujours montrer où ça fait mal pour pouvoir le guérir. D'accord ? Si quelqu'un montre juste qu'il ne va pas, mais qu'il ne propose pas de solution, pour nous, c'est exaspérant. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de ça, on a besoin de réponses. Mais Dieu donne des réponses. Il ne dit pas juste question et puis hop, on en reste là. Il pose la question pour que nous, on se pose la question, pour qu'on voit ce qui ne va pas. Et puis il dit, d'après le messager, « Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. » Et il fait quelque chose. Verset 14, « L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur, l'esprit du grand prêtre et l'esprit de tout le reste du peuple. » Il agit à tout niveau. Et il réveille l'esprit. Donc on a besoin de ça. On a besoin que notre esprit soit en éveil. Amen. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour aujourd'hui.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.